Bonjour et bienvenue dans Legal Club Sandwich. Nous sommes Audrey Deléris
et Pierre Landy.
Je suis manager au sein du cabinet de chasse de tête et de recrutement juridique et fiscal Fed Legal.
Et je suis executive mentor et cofondateur de l'Alliance européenne d'avocats ENCO. Nous sommes également les fondateurs du Fleet Network, French Lawyers in Tech, le réseau qui réunit plus de 350 juristes dans la tech et en start-up.
Dans notre émission, nous recevons des invités issus du domaine du droit qui nous parlent de leur métier, nous partagent leur retour d'expérience et nous donnent des conseils. D'autres spécialistes et experts viennent également éclairer la communauté juridique.
Le Legal Club Sandwich s'adresse à tous ceux qui veulent passer un bon moment en notre compagnie, de nos invités, mais aussi de celle de Lindia Le Sauvage, coach de prise de parole en public et experte en process.com, qui nous donnera également tous ses conseils.
Allez, on vous laisse découvrir ce nouvel épisode. Bonne écoute!
Bonjour et bienvenue à tous dans le Legal Club Sandwich, votre rendez-vous pour passer un bon moment et découvrir du contenu juridique de qualité dans une ambiance détendue et dans la bonne humeur. Alors aujourd'hui, c'est le premier épisode de la saison 8, vous avez bien entendu, 4 plus 4, 6 plus 2, saison 8 de l'émission, avec ce 66e épisode, ça nous fait presque peur pour cette belle aventure qu'on a commencé déjà il y a quelques années maintenant, c'est ce qu'on peut dire. Vous savez qu'on vient par section de 3 mois et puis on fait un hiatus pour se reposer et se ressourcer avant de revenir. Et là, donc voilà, c'est parti pour cette 8e saison qui va nous amener jusqu'au mois de juillet. Alors, on a prévu plein d'invités exceptionnels de nouveau pour cette 8e saison. Et je vais vous présenter William, notre invité d'aujourd'hui, dans un instant. Mais je suis surtout aujourd'hui ravi de retrouver uniquement Audrey. Lindia ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Mais avant de présenter Audrey, bien je vais me présenter. Donc moi je m'appelle Pierre Landy, je suis avocat au barreau de Paris. Je suis passé par Disney avant de devenir directeur juridique de Yahoo et puis de la licorne Ledger. Et je suis aussi cofondateur de l'Alliance d'avocats européenne ENCO. Ce sont des avocats qui agissent comme des juristes d'entreprise mais externalisés dans les pays principaux Italie, France, Espagne et UK. Et puis surtout aujourd'hui, je suis executive mentor. J'accompagne les directeurs juridiques, mais pas que, sur leur leadership, leur savoir-être, leur positionnement dans l'entreprise. Et puis par ailleurs, je suis aussi le cofondateur du Fleet Network pour French Lawyers in Tech, avec Audrey ici présente. C'est le réseau des juristes en start-up et dans la tech. On est aujourd'hui près de 700 membres et on en est très fiers. Voilà, donc comme je vous le disais, nous sommes d'ordinaire 3 aujourd'hui, 2 chroniqueurs pour animer Club Sandwich. Et donc je suis accompagné aujourd'hui de Audrey Deléris, qui est manager au sein du cabinet de chasse de tête Fed Legal. Elle accompagne les directions juridiques et fiscales pour leur recrutement, aussi bien en start-up que pour les groupes du CAC 40 dans les secteurs de l'industrie, des services et de la tech. Audrey, comment vas-tu ?
Bonjour Pierre, bonjour William. Écoute, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison. C'est toujours un grand plaisir pour le coup. Et déjà 8, donc ça fait maintenant quasiment 4 ans qu'on a commencé l'émission. Donc le temps passe vite et toujours un réel plaisir d'être avec vous tous.
Parfait. Peux-tu nous dire le thème de ta chronique d'aujourd'hui ?
Oui, aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire de recrutement. Je vais vous parler du recrutement de Marguerite. Vous en saurez plus dans quelques instants.
Parfait. Et pour ma part, je vous parlerai tout à l'heure d'accepter une promotion sans rémunération, sans augmentation. Enfin, sans rémunération, oui, mais sans augmentation. Donc, comment est-ce que vous devez réagir lorsque vous vous trouvez dans cette situation ? Donc, on vous l'a dit, aujourd'hui, nous sommes avec William. William, merci d'avoir accepté notre invitation. Comment vas-tu, William ?
Mais écoute, ça va super bien. Merci beaucoup, Pierre. Merci, Audrey. Moi, je suis un consommateur régulier de Legal Club Sandwich. Ça me fait plaisir d'être avec vous pour pouvoir ouvrir cette saison. Donc, je suis vraiment super content.
Eh ben, c'est super. Merci de ta fidélité. Alors, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs ?
Bien sûr. Moi, je m'appelle, comme tu l'as dit, William. Je suis le CEO d'une Legal Tech qui s'appelle Blockchain Your IP. J'ai un parcours de juriste classique. J'ai fait des études de droit à Lille. C'était une super ville. Et je dois dire que je pense que j'ai jamais été un excellent étudiant parce que je passais mon temps à étudier tout, sauf le droit, à faire des MOOC sur Photoshop, le développement, le SEO, apprendre à coder des sites en WordPress. Avec le recul, je pense que dès que je me posais à mon bureau, j'essayais de fuir l'échéance du commentaire d'arrêt qu'il fallait rendre la semaine prochaine. Et donc, ce parcours qui n'avait pas beaucoup de sens, finit par en, en prendre en fin de troisième année parce que j'ai lancé une legal tech pour joindre un petit peu l'utile à l'agréable qui s'appelle Blockchain Your IP. Et là, tout s'est recoupé. Ça m'a permis du coup de faire un bon master 2, de rattraper mes études et puis de faire mon métier d'aujourd'hui parce que j'ai jamais exercé d'autres fonctions.
Alors donc, tu as fondé Blockchain Your IP, on va en parler dans un instant. Et du coup, quel est le message aujourd'hui que tu souhaites faire passer à nos auditeurs ?
Le message que je voudrais faire passer, c'est que vous avez probablement pas ramassé tous les œufs de Pâques. Alors, je parle pas des œufs en chocolat qui ont déjà été dévorés par les enfants, mais des œufs en or massif qui font la valeur de votre entreprise. Il faut savoir qu'en 40 ans, la part de l'immatériel dans la valo des boîtes, elle est passée de 17 à 90%. Et pourtant, quand je discute avec les entreprises, on se rend compte qu'elles protègent leur IP toujours de la même manière, uniquement avec des marques et des brevets. Et elles délaissent tout un pan de la propriété intellectuelle qui, de mon point de vue, a quand même une importance très stratégique, c'est les droits non enregistrés. Le savoir-faire, les croquis de joaillerie, par exemple, les dessins de mode. Et puis surtout, le savoir-faire et le secret d'affaires, les formules, les process internes, les listes de sous-traitants. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit à la fois quand tu vends une boîte, tu vas avoir un tableur Excel avec les marques et les brevets, mais il n'y a rien dans la partie non enregistrée. Mais également, tu as même dans les chiffres de l'INPI, si tu regardes, il y a 40 000 e-solo, je crois, qui sont déposés chaque année contre 140 000 marques. Donc, en fait, on boude complètement une partie de l'IP parce que c'est trop compliqué. Et moi, mon sujet, c'est de dire, vous êtes probablement plus riche que vous le pensez si vous redécouvrez ces actifs dans votre portefeuille IP.
Alors du coup, tu vas nous expliquer comment devenir riche avec votre portfolio d'IP. Alors du coup, on va commencer par le commencement. Peux-tu nous présenter Blockchain Your IP, son activité, comment ça t'est venu, enfin voilà.
Bien sûr, plutôt que peut-être d'endormir tout le monde à midi avec un pitch commercial, moi ce que je te propose c'est de raconter une petite anecdote de propriété intellectuelle sur la ville de Venise que j'adore. En fait, il faut savoir que la ville de Venise de la fin du 13e à la fin au début du 17e a réussi à conserver un monopole quasi exclusif ultra lucratif sur la vente de fabrication de verre et de miroirs. Et pour une seule raison, en fait, c'est parce que ils avaient compris très tôt l'importance extrêmement stratégique que revêtaient les secrets de fabrique et ce qu'on appelle aujourd'hui les secrets d'affaires. Alors, je suis pas artisan verrier, donc je vais peut-être dire des bêtises, mais il y avait quelques-uns de ces secrets. Ça t'intéresse, on les connaît aujourd'hui. Il y avait ce qu'on appelle le verre aventuriné, qui est une sorte de pierre précieuse avec des paillettes. Je suis désolé, c'est la meilleure manière dont je puisse te le décrire. En fait, c'est très intéressant. C'était du verre qui avait été découvert par erreur. Tu avais un artisan verrier qui avait fait tomber de la limaille de cuivre dans du verre en fusion et qui l'avait refaire poidi. Ça faisait quelque chose de très joli qui est utilisé pour la joaillerie. Et puis, le deuxième secret qui nous intéresse surtout aujourd'hui, mon préféré, celui de la fabrication des miroirs. Pendant très longtemps, en Europe, en fait, on frottait comme des sauvages des plaques d'argent pour les rendre réfléchissantes. Et à Venise, ils avaient compris qu'il y avait une technique plus fine. Tu pouvais prendre une plaque de verre et superposer une sorte de mélange d'étain et de mercure que tu retournais ensuite et tu obtenais un bien meilleur résultat. Donc, ils avaient ces secrets de fabrique qui, évidemment, révélaient une importance stratégique. Et surtout, en fait, ils les ont protégés à travers les siècles, à travers ce qu'on qualifierait aujourd'hui de mesures raisonnables, des mesures raisonnables toutes bêtes, en fait, qui sont la bonne vieille méthode du bâton et de la carotte. Alors, le bâton, qu'est-ce que c'était? En fait, dès la fin du XIIIe siècle, ils ont pris tous les verriers de Murano et leur famille, et ils ont décidé de les séquestrer sur l'île de Murano, tu vois, et de leur interdire de quitter l'île pour cloisonner un petit peu l'information. Tu avais une sélection extrêmement rigoureuse des apprentis qui allaient être formés pour devenir maître verrier. Aujourd'hui, on ferait un petit peu des background checks, on vérifierait qu'on n'est pas en train de former des puissances étrangères. Et puis, tu avais une sensibilisation à l'IP qui était mise en place. Alors, à l'époque, on n'avait pas de PowerPoint, si tu veux, sur la corrélation entre portefeuille de marque et chiffre d'affaires de l'entreprise, ni de NDA ou d'exit interview, mais on te jetait en prison, on te confisquait tes biens, on te fouettait sur la place publique. Si tu étais surpris à vendre des secrets de pharmaïque à une puissance étrangère, ce qui évidemment avait un fort pouvoir dissuasif. Et puis, la carotte, en fait, les Vénitiens avaient compris que avec un turnover moyen de 10-15% par an, c'est impossible de conserver ces secrets d'affaires. Et donc, ils fidélisaient leurs meilleurs talents, comment en leur donnant tout un tas d'avantages. Déjà, ils payaient pas ou très peu d'impôts. Ils avaient le droit de faire des beaux mariages. Et puis surtout, je pense que c'est le plus important, les employés étaient valorisés puisqu'ils avaient le port d'armes. Et tu vois, Pierre, à l'époque, venir en soirée avec une épée, c'était pas du tout bizarre. C'était la méga classe. C'était un peu l'équivalent contemporain de la voiture de fonction. Et tout ça, du coup, ça fonctionne bien et ça permet de conserver ses secrets à travers les siècles jusqu'à ce que t'es Colbert qui envoie des espions pour débaucher sauvagement les meilleurs verriers de Murano, les ramener en France et créer en fait la galerie, la manufacture des glaces de Saint-Gobain pour développer en fait l'industrie française qui était à la traîne sur l'industrie vénitienne. Alors c'est pas quelque chose qui a disparu et ce genre de choses ça arrive tous les jours. C'est ce qu'on appelle en fait aujourd'hui du talent poaching, c'est-à-dire qu'en fait tu vas embaucher volontairement les salariés de tes concurrents pour qu'ils puissent venir les bras chargés de secrets d'affaires. Et très récemment, tu vois, Elon Musk, par exemple, enfin très récemment, il y a quelques années, qui a poursuivi la marque de 4x4 électrique Rivian, qu'il accuse en fait d'avoir doublé le salaire de certains employés chez Tesla pour qu'ils viennent faire la même chose chez Rivian. Alors Rivian, elle est tellement loin qu'ils ont même recruté les recruteurs d'Elon Musk. Et voilà. Et alors le problème auquel il est confronté, tu vois, Elon Musk, c'est le même que celui auquel sont confrontées toutes les entreprises, c'est qu'en fait, il n'a pas pris le temps d'identifier en amont précisément ses secrets d'affaires, comme les Vénitiens, eux, avaient identifié le secret de la fabrication des miroirs et de la pierre avant Turin. Et du coup, ben dans ces NDA, elles sont très floues, c'est écrit que tout est confidentiel, et ce qui fait que il est pas sûr de gagner. Voilà. Nous, ce qu'on fait avec Blockchain URIP, c'est qu'on simplifie et on automatise la datation des créations. C'est la première étape. L'étape enfermement sur l'île pour ensuite aider les entreprises à défendre leurs actifs immatériels.
Donc en fait, la preuve blockchain, ça te permet de couvrir les trous dans la raquette, si on voulait dire un petit peu. Ça te permet de vraiment tout couvrir, d'avoir cette espèce d'enregistrement sur vos secrets d'affaires, sur les secrets d'affaires des entreprises qui vont l'utiliser.
C'est exactement ça en fait. On prend tout ce qui habituellement n'était pas déposé, donc ça va être les travaux en cours de conception, les étapes intermédiaires, et puis ce qui est pas susceptible d'être breveté ou ce qui peut pas faire l'objet d'un dessin modèle ou ce que tu veux pas, tu peux pas parce que t'as pas forcément le budget. Donc c'est une, je dirais que c'est une protection pour le day to day, là où les marques et les brevets sont plus des milestones et tu vas en déposer lors d'accomplissement, lors du lancement d'un nouveau parfum par exemple, d'un nouveau produit.
Ok. Là, on parle blockchain. William, est-ce que tu pourrais réexpliquer ce que c'est la blockchain et le rapport surtout avec la propriété intellectuelle?
Bien sûr. La blockchain, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une base de données un petit peu particulière, j'aime bien dire. C'est pas comme un tableur Excel où l'information, elle serait mise ligne par ligne de la plus ancienne à la plus récente. Dans la blockchain, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va regrouper un ensemble d'événements qui sont passés sur un laps de temps, 10 minutes par exemple dans le cas de Bitcoin, dans des petits packages qu'on appelle des blocs et qui sont liés du plus ancien au plus récent, dont le nom blockchain. Et le premier truc qu'on fait en fait quand on crée un nouveau bloc dans la blockchain, c'est qu'on va mettre une sorte d'empreinte digitale du bloc précédent dans le bloc, ce qui permet de lier cryptographiquement en fait les différents blocs ensemble et de rendre la modification impossible sans avoir à tout modifier en aval pour camoufler son forfait. Alors évidemment, c'est ce qu'on appelle une base de données en fait à contrôle cryptographique, c'est sympa, mais si je la mets sous une clé USB et que je la cache sous mon lit, eh ben ça a pas vraiment d'intérêt parce qu'on pourrait penser que je suis venu la modifier pendant la nuit. Non, ce qui est vraiment cool avec la blockchain et puis avec les blockchains publiques comme Bitcoin, c'est qu'elles sont réparties sur plein de copies partout dans le monde. On appelle des nœuds. Dans le cas de Bitcoin, par exemple, tu en as 50 000. Moi, j'en ai une sur mon PC, mais tu peux aussi en avoir une, Audrey, si tu veux la télécharger. C'est ouvert à tout le monde.
Merci pour le conseil.
Et alors, comment est-ce que nous, on s'en sert pour la propriété intellectuelle? En fait, on s'en sert comme d'un registre pour prouver l'antériorité. On va calculer des sortes d'empreintes digitales des documents et les insérer dans des transactions Bitcoin pour qu'elle se retrouve répliquée sur les 50 000 copies et pour que le jour où tu as un problème, tu puisses recalculer l'empreinte du document comparé avec celle d'un blockchain. Et ce qui est cool là-dedans, c'est que du coup, ça dépend pas de notre survie parce qu'en fait, une fois que c'est dans la blockchain, les entreprises, elles sont indépendantes, quoi. Voilà.
C'est un petit peu comme quand dans le temps, enfin, je dis dans le temps, c'est à mon temps, quand on voulait vraiment prouver quelque chose, qu'on s'envoyait un recommandé qu'on n'ouvrait pas, pour prouver une date ou quelque chose. C'est un petit peu cette idée-là, mais sauf que c'est le 21e siècle, plutôt que, voilà, je sais que c'était une chose qui était utilisée de s'envoyer des recommandés à soi-même pour prouver. Oui. Une date qui est là, sauf que là, bon, bien évidemment, c'est bien plus moderne, mais c'est un petit peu cette idée-là, philosophiquement.
Exactement.
Alors, du coup, ça me, je sais que moi, je te parle du vieux recommandé. En fait, il y a d'autres solutions de datation électronique. Et donc, qu'est-ce qui change de le faire sur la blockchain par rapport aux solutions existantes en termes de datation?
Eh ben, écoute. Je vais te surprendre, mais d'un point de vue technique, pas grand-chose. J'ai envie de te dire qu'il y a des solutions de datation électronique qu'on utilise pour la signature électronique, par exemple, qui sont dans lesquelles tu peux avoir confiance et qui vont fonctionner. Pour moi, il y a deux types d'avantages qu'on a tendance un petit peu à mélanger. C'est aussi de la faute des acteurs de la blockchain comme moi qui ont communiqué sur les avantages de la blockchain de manière indifférenciée, alors qu'en fait, il y a des avantages qui sont liés plus aux solutions. Le premier avantage, c'est que bah, tu as une preuve qui, pour la première fois, va être un peu international by design et vérifiable de manière indépendante. Aujourd'hui, tu vois, en Suisse, ils font des dépôts notariales. En France, on aime bien faire des constats d'huissier. En Belgique, ils ont un genre d'isolo. En Corée, ils vont avoir un institut de copyright. Tu vois, les solutions, elles varient d'un pays à l'autre. L'avantage de la blockchain, c'est que c'est basé sur des règles mathématiques. C'est les mêmes règles à Paris, à Tokyo. Donc, de mon point de vue, on peut penser que ce sera amené à devenir un standard international juste parce que c'est plus simple. Et puis, les deuxièmes points de vue, c'est des avantages qui sont indirectement en réalité liés à la blockchain, mais qui, à mon avis, sont liés à l'ouverture de la datation à la concurrence. C'est-à-dire qu'avant, quand tu voulais offrir une solution de datation électronique, tu devais déjà développer la solution de datation électronique et investir là-dedans et ensuite commercialiser la solution. Aujourd'hui, on saute une étape parce que tout le monde a accès à ce protocole open source génial qui est Bitcoin et la blockchain, et donc on peut concentrer nos investissements uniquement sur le fait de faire une expérience qui va permettre aux juristes de gagner du temps. Et donc je pense que c'est pour ça que les solutions de datation blockchain en fait généralement sont plus sympas à utiliser que d'autres solutions. C'est juste parce que ça a cassé la barrière à l'entrée. Et voilà, et tout ce qui est on peut déposer tout format, c'est rapide, c'est automatique, c'est pas directement lié à la blockchain, en fait c'est lié aux solutions. Voilà.
Moi, ce que j'aime bien avec cette solution, c'est que ça rappelle que la blockchain, c'est pas que le Bitcoin. Même si je suis très monnaie virtuelle, hein. Hello à mes camarades de Ledger et le fantastique portefeuille de sécurisation des cryptoactifs que Ledger propose. Mais voilà, c'est intéressant de se rappeler que la blockchain, ça peut avoir plein d'autres utilisations, dont celle que tu évoques aujourd'hui. Donc voilà, je me disais juste c'est ça. Pardon Audrey, je t'ai coupé la parole.
C'est vrai que si je comprends bien, c'est quand même très récent. Il n'y a pas de jurisprudence aujourd'hui. Et en fait, je me demande comment est-ce que tu arrives à convaincre des entreprises de passer par justement la preuve blockchain alors que c'est tout récent et qu'il n'y a pas encore de beaucoup d'existants là-dessus.
Alors, c'est pas si récent que ça parce que moi, j'ai quand même commencé il y a 6-7 ans. Et à l'époque, tu vois, c'était probablement, je sais pas, Pierre, à l'époque, peut-être que tu étais chez Ledger, c'était le moment où le Bitcoin est passé de 600 euros à 20 000 euros.
Le premier bull run en 2017.
Donc, on est passé de qu'est-ce qu'ils font ces geeks à tout le monde était très intéressé, mais avait encore peur de se lancer. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a beaucoup eu comme remarque, revenez quand il y aura une première jurisprudence ou on attend une première jurisprudence pour se lancer. Et en fait, le problème, tu vois, c'est que la jurisprudence, elle se fait pas tout seul. Et donc nous, quand on lance des solutions comme ça, on a besoin un petit peu d'aventuriers de la jurisprudence qui ont envie de prendre un coup d'avance. Et donc moi, j'ai eu la chance de rencontrer des directeurs juridiques qui m'ont dit on va la faire ensemble, William, la jurisprudence, et on va déjà commencer à s'en servir au stade du précontentieux. Mais c'est vrai qu'au début, c'était quelque chose qui était très dur. On rencontrait beaucoup de boîtes parce qu'elles étaient intéressées par le sujet, mais il se passait pas grand-chose. Je dirais que les NFT nous ont un petit peu ringardisés, c'est-à-dire que les entreprises ont vu le département marketing débarquer avec des chaussures virtuelles, et à partir de là, la preuve blockchain, ça paraît très très conservateur et ça fait beaucoup moins peur. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Et puis surtout, au niveau mondial, on a eu quand même quelques reconnaissances. Par exemple, en Chine, il y a le tribunal internet de Hangzhou qui a reconnu la validité de la preuve blockchain. En Italie, ils ont une présomption de validité de la preuve blockchain. En France, on voulait faire la même chose, mais c'était l'époque où Bruno Le Maire voulait mettre le paquet sur les ICO parce qu'il pensait que c'était le futur, et on avait considéré que c'était un peu enfoncer une porte ouverte que de poser une présomption de validité alors que la preuve est libre, donc ça s'était pas fait. Voilà. Nous, on n'a pas encore de jurisprudence en France, mais la preuve est libre, donc en soi, on n'en a pas réellement besoin. Et surtout, on a des clients qui utilisent déjà au stade du pré-contentieux. Et comme j'ai dit, c'est une preuve qui est vraiment internationale by design de mon point de vue. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que t'as aucun pays qui jusqu'à maintenant a refusé la preuve blockchain, tout simplement parce que la preuve elle est libre et qu'il n'y a pas de raison de discriminer la preuve blockchain plutôt qu'une autre mode de preuve électronique.
Alors justement, tu dis les entreprises, c'est quels sont les types d'entreprises concrètement qui l'utilisent, pour quel type de protection ou quel type de domaine?
Eh ben, il y a plusieurs cas d'usage. C'est vrai qu'en fait, on n'en parle jamais parce que généralement, les boîtes vont considérer que ça fait partie de leur stratégie IP. Elles ne veulent pas communiquer dessus, contrairement, tu vois, à d'autres cas d'usage qui sont plus liés au marketing et au CRM. Je pense par exemple à l'authentification des produits de luxe sur lesquels les entreprises elles communiquent beaucoup parce que c'est partie de l'expérience utilisateur. En matière de datation, on voit pas beaucoup de témoignages. Je peux te parler de trois cas d'usage où celui qu'on fait le plus, c'est lorsque le time to market est extrêmement long, notamment dans la joaillerie. Tu vois, par exemple, dans la haute joaillerie, bah, faire un bijou, ça peut prendre 3 ans. Et donc, tu passes par plein d'étapes intermédiaires, des croquis, des dessins gouachés, des modèles 3D, puis la version finale. Et en fait, on s'imagine souvent que le processus de création est linéaire, alors qu'en fait, il part, tu vois, dans tous les sens et puis il bifurque, il revient. Et donc, le fait d'avoir la datation blockchain, ça va te permettre de prouver toutes les étapes, même les pistes créatives abandonnées. Et si jamais, je sais pas, mais tu as une designeuse de bijoux qui s'en va chez Tiffany plus tard et qui refait la même chose, bah, tu pourras quand même exploiter tes créations qu'elle avait fait à l'époque, même si tu les avais pas sorties. Le deuxième cas d'usage, c'est pour les agences peut-être de pub dans leur relation avec les annonceurs. Tu sais comment ça fonctionne, tu participes gratuitement en fait à un concours, des fois tu es retenu et puis des fois tu vas pas être retenu, et puis il arrive régulièrement que les travaux soient en partie ou complètement repris alors que t'as pas été rémunéré, tu vois, et le fait d'avoir daté ce que t'envoies dans le cadre de ces concours, ça te permet ensuite de négocier en position de force et de régler les incompréhensions. Et puis un troisième cas d'usage auquel je m'attendais pas, c'est dans le cadre de consortium. Il y a des personnes qui s'en servent pour dater ce qu'on appelle le background IP, c'est-à-dire l'IP existant avec lequel tu arrives dans un consortium, l'enjeu étant de repartir avec à l'issue de la collaboration et pas de se le faire détourner, évidemment, à cette occasion. Voilà, ça c'est pour les grands comptes. Et puis je dirais que ensuite les startups, elles le font plus dans une logique peut-être de valorisation de leur IP pour les investisseurs et puis dans une logique de se défendre des accusations infondées que tu peux éventuellement avoir.
Et justement, William, on adore les exemples au Legal Club Sandwich. Est-ce que tu aurais des exemples d'entreprises qui ont été condamnées à tort parce qu'elles n'avaient pas de preuves, justement?
Alors j'en ai deux qui sont top. Le point auquel je pense, c'est une histoire avec la maison de bijoux Cartier, en fait, qui a été victime, comme beaucoup d'entreprises. J'ai vu que c'était arrivé récemment aussi à une autre, bon, je me souviens plus, mais à une autre maison, en fait, de sollicitation de designers externes. Régulièrement, en fait, quand tu es en vue comme ça, tu as des designers externes qui vont t'envoyer des dessins sans que tu aies rien demandé. Et je sais que, par exemple, Apple te fait un procès direct parce qu'ils aiment pas du tout ça. Et donc Cartier avait reçu une proposition d'un designer qui reprenait leur célèbre bague Trinity. C'est la bague 3 anneaux avec de l'or, or, de l'or blanc et puis de l'or jaune, mais pour en faire une montre. En fait, ils avaient repris la bague pour faire un boîtier de montre. Alors évidemment, Cartier avait décliné, et puis l'idée est pas très originale parce que ça appartient quand même à la marque Cartier Trinity, donc on peut penser qu'ils y aient pensé avant. Et en fait, le designer leur avait fait un procès ensuite, plus tard, quand ils ont sorti la montre. Et Cartier avait perdu en première instance parce qu'ils n'avaient pas de preuve d'antériorité. Et en fait, en appel, ils ont réussi à retrouver un constat d'huissier qui avait été réalisé à l'époque, sur lequel il y avait notamment cette bague, trois anneaux. Et le contrefacteur était tellement de mauvaise foi, en fait, qu'il a remis en cause la validité du constat d'huissier. Et du coup, ils ont été obligés de faire authentifier l'encre pour prouver que c'était un vrai constat d'huissier. Ça, c'est quelque chose qui me fait rigoler parce que c'est pas quelque chose évidemment qui pourrait arriver avec la blockchain, parce que tu pourrais pas falsifier.
C'est parti loin avec l'encre, en tout cas.
Exactement. Et le deuxième cas, c'est avec l'affaire L'Oréal et Olaplex. Et c'est une affaire de coexistence fortuite. En 2019, L'Oréal, ils ont été condamnés, je crois, à presque 100 millions de dommages et intérêts pour avoir détourné une innovation qu'ils avaient en réalité développé en interne dès 2014. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils voulaient racheter une startup qui s'appelait Olaplex, qui fait une sorte de produit de protection des cheveux pendant la collaboration. Et le rachat, en fait, s'est pas fait parce que Olaplex voulait probablement trop d'argent. Ensuite, Olaplex était persuadé qu'ils avaient profité des négociations, en fait, en vue du rachat pour détourner des informations confidentielles et puis pour sortir leur propre gamme concurrente à Olaplex. Du coup, ils ont assigné et L'Oréal a perdu en appel. Ils ont fini en première instance, ils ont fini par gagner en appel parce qu'ils ont réussi à trouver des bouts de ficelle, quoi, en fait, des emails, tout un tas d'éléments qui venaient corroborer le fait qu'ils avaient créé ça avant, mais ça n'a pas été évident. Ils auraient pu s'éviter 50 procédures et puis les frais qui vont avec, tu vois, s'ils avaient fait venir un huissier, un notaire, ou s'ils avaient tamponné en fait leur création au fil de l'eau.
Alors ça me fait marrer parce que ce que tu racontes, c'est là, donc en 13, pardon, ça devient une longue époque, je travaillais à Disneyland Paris et on recevait régulièrement des propositions d'attraction de gens qui savaient exactement ce qu'il fallait qu'on fasse et ce qu'on devait faire. Et donc du coup, il fallait, et j'étais jeune juriste, mais c'était une des choses que je faisais, reprendre le paquet, le refermer, mettre une jolie lettre qui s'appelait Unsolicited Idea, donc idée non sollicitée, et renvoyer chez l'expéditeur avec un recommandé qui disait: nous n'avons pas gardé aucun document, nous vous renvoyons, merci de votre intérêt, mais nous développons tout en interne, nanana. Et c'était effectivement exactement cette question-là, et la question des unsolicited ideas. Et voilà, chaque fois que j'ai des copains qui envisagent de postuler auprès de Imagineering, la boîte qui crée les attractions de Disney, je leur dis envoyez un concept qui n'a rien à voir avec Disney, qui parle de, je sais pas moi, Poséidon, ce que vous voulez, des dieux grecs, enfin un truc complètement pour montrer votre créativité, mais surtout ne pensez pas que vous faites bien en essayant de proposer quelque chose qui s'insérerait, parce que votre dossier va être envoyé direct, y compris à ce jour. Voilà, bon, c'est pour la petite anecdote personnelle, mais ça me renvoie, voilà, ça vient de me revenir un peu comme une Madeleine de Proust, ce mot d'unsolicited idea. Donc, on va vous laisser poser les questions dans le chat. Merci beaucoup, William, pour ton intervention, et on va revenir à toi dans un instant, après les chroniques. Alors, pour ceux qui suivent Legal Club Solutions pour la première fois, vous savez que je fais à la fois ingénieur du son, animateur aujourd'hui, ça change entre nous tous, et voilà, et qu'on a donc des jingles pour nos chroniques, et donc nous allons laisser la place à Audrey pour sa chronique, et voici son jingle. Get the fever.
Get the fever. Merci Pierre, ravi de réentendre ce jingle que j'aime tant depuis maintenant quelques années, quelques épisodes. Alors pour cette nouvelle saison, je vais vous raconter des histoires de recrutement. Mes histoires de recrutement, celles pour lesquelles ce métier de chasseuse de tête me passionne toujours autant, ces histoires de rencontres. Aujourd'hui, je vais vous partager l'histoire de Marguerite. Alors Marguerite, elle s'appelle pas vraiment Marguerite, mais par mesure de confidentialité, je tairai son vrai prénom. Alors reprenons, Marguerite, elle vient de me voir en entretien, entre guillemets, pour faire le point sur sa situation. C'est une expression qu'on aime beaucoup chez nous quand on est chasseur de tête. Elle a 25 ans d'expérience, des premières années en tant qu'avocate en fusion acquisition et 15 ans dans un grand groupe industriel international. Elle y a été directrice juridique M&A et ensuite directrice juridique en charge d'une division. Aujourd'hui, elle recherche un nouveau challenge avec une préférence pour un autre groupe industriel, même si elle reste ouverte. Marguerite et moi, on échange sur son parcours, ses envies, ses projets. Je n'ai rien à lui proposer aujourd'hui, mais peut-être demain. Un sourire, un silence, je réfléchis, et l'entretien prend une autre dimension. Et là, je lui dis, j'ai peut-être quelque chose pour vous, Marguerite. Marguerite sourit, elle est toute oui. Un poste de directeur juridique, pour reprendre une équipe, avoir un rôle d'animateur auprès des juristes des autres branches, des opérations de M&A, des dossiers de grande envergure, des contentieux, avoir une vraie prise de hauteur, savoir se positionner, créer du lien, inspirer confiance, tout en ayant une approche business, bien entendu. Mon client est dans le secteur du luxe et il aimerait bien avoir quelqu'un qui vient de la distribution. Marguerite n'a pas d'expérience dans la distribution. Qu'à cela ne tienne, elle réunit toutes les autres caractéristiques. M&A, manager d'équipe, périmètre large, et elle sait ce que c'est d'évoluer dans un groupe familial, ce qui est le cas de mon client, et dans cet environnement un peu politique, ce qu'on connaît aussi dans ces groupes familiaux. Marguerite est hyper emballée. Elle est la première à rencontrer mon client. Il y a 7 autres candidats qui sont également rencontrés. Marguerite m'appelle, elle veut avoir des nouvelles, elle patiente. Le premier round est vraiment long. Marguerite passe à l'étape suivante. Elle rencontre le directeur financier, le secrétaire général, les membres du directoire, la DRH. Tout ça en plusieurs entretiens. À la fin, ils ne sont plus que 2. C'est la finale, la dernière ligne droite. Comme dans une compétition sportive, il ne devra en rester qu'un. Un gagnant. Et un autre, très bien lui aussi, mais qui ne sera que numéro 2. Le téléphone sonne. Une tonalité, puis 2. On décroche. Marguerite, vous avez été choisie. Marguerite explose de joie. C'est ce qu'elle voulait. Elle voulait ce poste-là. Marguerite, elle a pris ses fonctions il y a 1 an. Elle est hyper travailleuse, volontaire. Elle ose dire quand elle ne sait pas et c'est extrêmement apprécié chez mon client. Marguerite a découvert un nouveau secteur. Elle prend son rôle d'animation très à cœur et travaille sur le très beau dossier. Elle a trouvé un nouveau projet à la hauteur de ses attentes. Mon client lui fait confiance et il est ravi d'avoir trouvé un partenaire interne sur qui s'appuyer. C'est vraiment une belle rencontre comme je les aime, entre une candidate, et encore plus une personne, et mon client, une société qui cherchait un mouton à 5 pattes, et qui l'a peut-être trouvé. En tout cas, quelqu'un avec qui tout se passe bien, et c'est déjà beaucoup. Voilà, c'était l'histoire de Marguerite, passée de l'industrie lourde au luxe, et j'ai hâte de vous raconter ma prochaine histoire de recrutement.
Et comme quoi, parce que tu me l'avais expliqué, c'est vraiment le fait qu'elle ait su dire qu'elle ne savait pas certaines choses, qui a été quasiment ce qu'elle décidait vraiment. Entre les deux candidats.
Ils ont vraiment
complètement contre-intuitif.
C'est complètement contre-intuitif. Voilà, il y a eu un passif pas facile avec d'autres personnes auparavant. Ils voulaient vraiment quelqu'un sur long terme. Ça fait 1 an, donc on espère que ça va durer longtemps. Mais en effet, c'est toujours une histoire de rencontre et j'avais envie de vous la partager parce que c'est aussi comme ça, une histoire d'échange et je pensais pas à quelque chose. Et puis, une seconde après, elle m'a dit quelque chose qui a fait que ça allait peut-être matcher et ça a matché.
Ah, et elle sait dire non. C'est ça qui était le
Elle sait même dire qu'elle ne sait pas. Voilà,
elle ne sait pas, c'est ça, pas non. Parce que non, c'est pas ce qu'on dit vraiment, c'est qu'elle ne sait pas et c'est ça qui leur a plu, qui a fait quasiment la différence.
Exactement. Et je vous rassure, c'est quand même beaucoup de choses hein, quand même. Mais en tout cas, quand elle ne sait pas, elle le dit et elle sait aller se tourner vers d'autres personnes en externe et ça c'est quelque chose que moi j'ai beaucoup apprécié ce retour-là en tout cas le feedback de mon client.
Ouais, et d'ailleurs Audrey le dit souvent dans ses chroniques, dire que vous ne savez pas ou que vous ne pourrez pas tout faire, notamment si vous êtes pris pour un poste de juriste unique, c'est essentiel plutôt que d'essayer de vendre quelque chose que voilà qui est de mission impossible. Donc voilà, j'en en profite.
Merci de le rappeler, Pierre.
Et oui, parce que tu le dis tout le temps et c'est vraiment très, très important. Voilà, et donc je vais m'auto annoncer, je vais passer à ma chronique et je vais lancer mon propre jingle que voici. We do. Alors aujourd'hui, eh bien, je vais vous parler d'un sujet qui je pense peut-être va parler à beaucoup d'entre vous. Ça y est, c'est l'évaluation annuelle. Vous êtes choisis et vous avez enfin la promotion que vous aviez tant envie d'avoir. C'est formidable et donc vous êtes très content et à la fin on vous annonce que oui vous avez la promotion mais par contre pas d'augmentation, il y a rien qui va avec, vous avez juste le poste mais pas les croquettes qui vont avec. Donc là une question se pose, comment réagir face à une telle proposition sans avoir envie de dire tu te fous de ma gueule. Donc voici quelques trucs et astuces pour gérer cette situation qui peut totalement vous arriver. Alors la première, première, je recommande quand même un accueil positif de la nouvelle. Même en l'absence d'augmentation, c'est quand même une promotion et une reconnaissance de votre travail, de votre potentiel. Donc, c'est quand même un signe extrêmement positif de la part de votre employeur, hein, qui est en train de quand même de vous dire que vous êtes un pilier pour l'avenir de l'entreprise. Donc, prenez quand même ce moment pour apprécier cette marque de confiance et la reconnaître. Voilà, parce que, eh bien, il faut se dire que peut-être que pour quelqu'un qui était juriste d'entreprise et qui devient directeur juridique, même sans augmentation, c'est quand même une reconnaissance de son expertise. Ça va être un tremplin pour négocier de meilleures conditions à l'avenir. Donc, bon, écoutons quand même la totalité du deal avant de partir, de monter dans les tours et de s'insurger. Comprenez les raisons quand même, c'est-à-dire que lorsqu'on va vous dire il n'y a pas d'augmentation, ça ne veut pas dire que vous allez juste dire « Praise the Lord, thank you » et ça se termine là. Non, on va quand même poser la question de savoir pourquoi est-ce que la promotion est proposée sans augmentation. Est-ce que c'est lié à des contraintes budgétaires peut-être temporaires ou une politique spécifique de l'entreprise? Est-ce que est-ce que il y aura jamais d'augmentation ou est-ce que c'est peut-être une période de test? Enfin, voilà, il faut comprendre les raisons derrière cette discussion, cette décision. Il faut que vous ayez que les motivations soient plus claires pour comprendre pourquoi est-ce qu'on vous a fait cette proposition et voir s'il y a des compromis possibles, voir ce qui est envisageable. Si l'entreprise traverse par exemple une période difficile, mais espère vraiment avoir des perspectives d'évolution dans un avenir relativement proche, ça peut valoir la peine. On peut citer l'exemple d'une start-up qui serait en pleine croissance, qui ne peut pas se permettre des augmentations immédiates, mais qui va offrir des opportunités de développement professionnel, ou même peut-être va vous proposer autre chose, par exemple plus de BSPCE ou de l'actionnariat salarié. Bon, là, ça se discute, on y réfléchit. Et puis, c'est le moment, quand on vous fait ce coup-là, de négocier d'autres avantages. C'est-à-dire que effectivement, une augmentation, c'est quelque chose d'un peu figé dans le marbre une fois qu'on l'a. Ça va se renouveler tous les mois et puis ça va rester. Il y a peu de chances que le salaire redescende par la suite. Donc, si l'augmentation de salaire est hors de portée, explorer d'autres formes de compensation en échange du fait que vous soyez promu, mais il n'y ait pas d'augmentation. Alors, on peut imaginer des avantages en nature, je sais pas moi, une voiture de fonction, un abonnement sportif, j'en sais rien, plus de jours de congé, plus de télétravail, ou même des formations qui peuvent enrichir votre parcours professionnel. Je sais pas moi, travailler avec un exécutif mentor, par exemple, je dis ça, je dis pas ça parce que je suis moi-même exécutif mentor, mais enfin, vous voyez l'idée. Donc, en tout cas, négocier d'autres avantages, chercher vraiment ce que vous pourriez tirer de cela. Et puis, fixer des objectifs clairs pour l'avenir. Définissez des objectifs quantifiables. Vous savez que j'aime bien les objectifs SMART, hein, spécifiques, mesurables, dans le temps, etc. Il faut quand même avoir un plan clair avec des échéances définies parce qu'il faut quand même savoir à quel moment on va pouvoir discuter de cette discussion salariale future. Hein. On ne travaille pas que pour la gloire quand même. Donc, il y a un moment, il faut faire un équilibre entre la compréhension de pourquoi il n'y a pas d'augmentation en moment T et être l'idiot du village qui prend de plus en plus de responsabilités sans jamais être compensé pour. Donc là, il faut juste avoir un espèce d'objectif clair pour l'avenir. Évaluez aussi l'impact que cette promotion va avoir sur votre carrière. Pesez soigneusement, comment cette promotion, même s'il n'y a pas eu d'augmentation, s'aligne avec vos objectifs de carrière à long terme. Est-ce que, par exemple, ça va être un tremplin pour de meilleures opportunités demain? Quelqu'un qui serait très spécialisé, par exemple, dans le corporate, à qui on propose d'être un directeur juridique généraliste, eh bien, il va acquérir et manager une équipe. Eh bien, il va acquérir de l'expérience dans la gestion, dans le management, dans le leadership. Et donc, de facto, pour le prochain poste, ça va augmenter sa valeur sur le marché du travail lorsqu'il rencontrera Audrey qui viendra le chasser. Considérez la promotion véritablement comme une opportunité d'élargir vos compétences, vos responsabilités. À terme, cela peut être, encore une fois, plus précieux qu'une augmentation immédiate, encore une fois, si ça vous positionne avantageusement pour l'avenir. Et puis, il y a aussi la reconnaissance, le statut. Un nouveau titre, passer de juriste à directeur juridique, ça peut rehausser votre statut au sein de l'entreprise et puis surtout à l'extérieur de l'entreprise. Ça peut vous donner soudainement accès à des think tanks, à des réunions, à des à des milieux auxquels vous n'auriez pas accès avec le titre de juriste et auxquels vous l'auriez en termes de directeur juridique. Pensez, cela dit, parce que vous l'avez bien compris, on ne travaille pas pour des clopinettes, à la négociation future. Donc, pendant cette étape de promotion sans augmentation, pensez à documenter tous vos succès, tout ce que vous faites qui va permettre de montrer votre valeur et qui viendront renforcer votre demande future. Et puis, je terminerai par deux choses. D'abord, savoir refuser si nécessaire. Si vraiment les termes de la promotion ne sont pas du tout en votre faveur, vous n'avez pas pu négocier un compromis, qu'il n'y a rien pour vous et que vous voyez vraiment pas ce que ça vous apporte, eh bien, il est important de savoir dire non. Parfois, un non peut être une bonne décision à long terme. Un juriste à qui on propose une promotion impliquant beaucoup plus de travail, de responsabilité, sans aucune compensation adéquate, sous aucune forme, et qui décide de refuser pour préserver sa santé mentale et son bien-être, ça peut être une excellente décision. Et puis le deuxième conseil, c'est que je pense qu'il est tout à fait OK, pour toutes les raisons que j'ai citées, d'accepter une promotion sans augmentation. Mais il y a un moment, il faut déterminer entre être un team player et une fois encore l'idiot du village. Donc il y a un moment, il faut savoir dire non, mais là ça suffit, stop. Et le cas échéant, eh bien aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte ou en tout cas mieux compensée. Voilà. Donc chaque situation est unique, mérite une approche sur mesure. Et soyez assurés que quelle que soit votre décision, eh bien elle soit en accord avec vos objectifs professionnels, personnels, vos valeurs, et n'ayez pas peur de les défendre. Et voilà.
Merci beaucoup Pierre. Toujours un plaisir d'entendre tes bons conseils pour le coup, et je ne peux que partager ce que tu dis justement, bien prendre en considération tout ce qui est proposé, pas seulement la rémunération qui peut être en effet inexistante. Voilà.
Alors, je ne vois pas de questions dans le chat, mais moi j'en avais une qui m'est venue tout à l'heure. Je me disais, ok, donc blockchain your happy, j'adore la solution, j'adore l'idée de la blockchain, j'adore tout ça. Mais est-ce qu'on t'oppose pas, William, parfois, on se dit, ouais, d'accord, c'est bien ce que vous faites, mais enfin, je me sens pas forcément à l'aise à confier la protection de mon IP à une entreprise privée. Je me demande, ça serait pas mieux d'aller à l'INPI ou à un organisme qui me paraît plus neutre. Est-ce que c'est des arguments que tu entends? Et si oui, qu'est-ce que tu y réponds?
Alors mieux, je sais pas, moi je trouve que blockchain et RPC c'est mieux. Non, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. T'as beaucoup de gens qui te disent que ils vont jamais faire faillite, mais la vérité, tu vois, c'est que moi j'étais à Station F et je peux te dire que j'en vois des sociétés qui font faillite. Ça peut arriver à tout le monde. C'est même arrivé au WIPO Proof, qui avait lancé une solution, tu sais, de datation blockchain, et qui l'a fermé quelques années plus tard parce que les États membres lui ont pas revoté son budget. Et donc nous, en fait, c'est quelque chose qu'on a essayé de prendre en compte dès le début pour construire Blockchain Your Happy pour le jour où ça allait disparaître. Donc comment est-ce que tu fais ça? Un, en passant que par des standards open source. Tu vois, par exemple, on n'a pas de blockchain privé, on est basé sur Bitcoin, parce que du coup ça rend le registre sur lequel sont les empreintes indépendant de nous. Même dans le format de preuve, on utilise un format open source qui s'appelle le format Chainpoint, qui va aussi être utilisé par d'autres acteurs, tu vois, style Microsoft, ou des gens qui ont des cas d'usage différents, qui, par exemple, vont faire de la traçabilité des produits de luxe. Et bah, ils eurodatent de la même manière, ce qui fait que tu peux vérifier une preuve de chez eux, chez nous, et inversement. Et le dernier point qui était important et sur lequel nous, on travaille beaucoup, c'est la réversibilité en continu. En fait, on essaye de permettre à nos clients, en fait, d'être indépendants à tout instant en fait de nous. Et comment est-ce qu'on fait ça? En fait, on va exporter en continu les preuves chaque jour vers leur espace de cloud favori, tu vois, ou leur serveur de fichiers, ce qui fait qu'ils ont un tableur Excel avec la liste de tous les documents qu'ils ont déposés, et puis ils ont les preuves, les documents, et donc même si on venait à disparaître du jour au lendemain, tu vois, en fait, ils peuvent quand même utiliser leurs preuves. Alors c'est beaucoup moins sympa que Blockchain Your Happy, puisque tout le monde sait qu'Excel c'est moins bien, mais voilà. Je pense que quand on lance une entreprise comme ça, on a vraiment une responsabilité de prévoir tous les scénarios catastrophes, même les plus farfelus. Tu vois, la disparition de Bitcoin, je me suis demandé qu'est-ce qu'on ferait en cas de disparition de Bitcoin. Moi, je pense qu'il n'y a aucune chance que ça arrive, mais tu dois quand même l'envisager. Bah, dans ce cas de figure, par exemple, tu vois, on viendrait horodater la blockchain Bitcoin dans une autre blockchain, comme la blockchain Ethereum, par exemple. Et si vraiment on s'était planté et que tout ça était qu'une vaste pyramide de Ponzi depuis le début, bah déjà, je pleurerais un petit peu. Et toi aussi, probablement, parce qu'on y a passé des années, mais ensuite, on irait sur une clé USB mettre la blockchain chez un huissier de justice, tu vois, pour reprendre l'antériorité. Et donc voilà, donc on essaie de l'anticiper. Et d'ailleurs, on a un document, c'est très rigolo, j'ai un document qui s'appelle « Comment utiliser mes preuves maintenant que Blockchain Your IP a disparu ?» Tu vois, c'est une sorte de PDF qui est un post-mortem, un testament, et je le remets au client, tu vois, au démarrage du contrat. Comme ça, je leur dis, vous avez tout en main. Nous, c'est la solution qu'on a à trouver, en fait, en assumant pleinement le risque, tu vois, qui existe vraiment. Et quelqu'un qui dit le contraire, je pense, il te ment un petit peu.
Je viens de partager le document dont tu parles, justement, qui est sur le site AWIM.
Ah ben, ça, c'est une formation sur la blockchain. C'est pas sûr, mais ça en parle aussi.
D'accord. Et justement, William, qu'est-ce qui te plaît, toi, au quotidien, dans ce que tu fais? Est-ce que tu as l'air passionné par tout ce que tu nous racontes, par la blockchain, l'IP? Qu'est-ce qui te passionne au quotidien dans cette matière, justement, très particulière?
Moi, j'ai toujours aimé créer des projets. Je pense que celui-là, ce qui me plaît, comme beaucoup de monde, c'est la liberté de pouvoir aussi un petit peu faire ce que tu veux, d'avoir l'impression d'avoir un impact. Tu vois, quand j'ai une entreprise, par exemple, j'ai des amis qui sont dans des très grandes entreprises, s'ils sont là, ils se reconnaîtront. Tu vois, ils démantèlent des centrales nucléaires, les projets, c'est à 100 ans, tu vois, donc ils voient pas vraiment l'impact de ce qu'ils font. Ça, j'aime bien le fait de créer Blockchain Your IP. Et puis l'IP, ça me parle particulièrement parce que je trouve ça extrêmement concret comme matière juridique. En fait, on rencontre des designers de mode qui sont complètement fous, qui vont faire des trucs des trucs que personne porterait, tu vois, au festival de hier. Mais enfin, je trouve ça super intéressant de voir tous ces gens qui ont du talent, tu vois. Et t'as peut-être moins ça pendant le droit fiscal ou j'en sais rien, tu vois. Donc moi, c'est pour ça que j'aime bien la propriété intellectuelle.
Ok. Merci, William.
Alors, merci beaucoup, Liane, d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Audrey, tu nous parles de la prochaine émission?
Oui, après William, donc aujourd'hui sur la blockchain et l'IP, on va recevoir dans 2 semaines Marina D'Acosta, qui est agent immobilier, qui a un parcours de juriste à la base et qui a eu déjà plusieurs vies et qui va nous expliquer un peu tout ça avec beaucoup d'humour et d'enthousiasme.
Eh bien, parfait. Et donc, ça sera dans 15 jours, puisque donc on reprend notre rythme. Dans 15 jours, vous aurez le replay. Je vous ai remis les liens pour réécouter le Zoom et puis aussi pour aller nous suivre sur le site officiel où il y a plein de ressources, et notamment plein d'articles, des blogs, le replay des 65 précédentes émissions, etc. Bref, de quoi vous occuper pendant les week-ends du mois de mai, les longs ponts. Je suis sûr que vous n'avez envie que de faire que cela. Voilà. Et puis, merci à tous d'avoir assister à l'émission aujourd'hui. Merci encore William et je donc redeviens ingénieur du son pour lancer le générique de fin. Merci à tous, à dans 15 jours. Au revoir.
Merci de nous avoir écoutés.
Si l'épisode vous a plu, pensez à nous mettre une super note au podcast sur toutes les bonnes plateformes. On compte sur vous aussi pour parler de Legal Club Sandwich autour de vous.
Enfin, rejoignez notre page sur LinkedIn. À très bientôt pour une nouvelle émission.
À bientôt.